CFM Radio, le Mac du Tarn, la suite est maintenant Plante Histoire de Plante avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour qui nous parle de la graine.
Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler de graines, sujet ô combien passionnant une fois de plus. Quelle belle invention que la graine, et tellement pratique pour nous les jardiniers. Je vais ici vous parler de la graine dans l'histoire de l'évolution végétale, les raisons de son apparition et les avantages qu'elle procure aux plantes. Une autre chronique reviendra très certainement bientôt pour aborder les multiples façons que nous avons de les utiliser. La graine telle qu'on la connaît aujourd'hui a été inventée il y a bien longtemps, pendant l'ère primaire, plus précisément pendant le Dévonien, il y a un peu moins de 400 millions d'années. Les premiers individus à avoir inventé la graine sont un groupe de fougères, aujourd'hui disparues, appelées les ptéridospermaphytes. Et oui, il y a eu des fougères qui produisaient des graines. Mais laissez-moi vous expliquer tout cela depuis le début et vous expliquer de quoi on parle exactement quand on parle de graines. Les plantes sont apparues il y a environ 3,2 milliards d'années dans les océans. C'était des algues unicellulaires, microscopiques, très simples, plutôt classées aujourd'hui parmi les bactéries, et qui vivaient sans oxygène, mais réalisaient tout de même un certain type de photosynthèse. À ce stade-là, elles se reproduisaient simplement par division cellulaire. Bien plus tard, il y a environ 1 milliard d'années, les premières plantes à cellules véritables apparaissent. L'atmosphère commence tout doucement à s'enrichir en oxygène, elle en contient environ 1% de ce qu'elle contient aujourd'hui. Mais c'est suffisant pour que la couche d'ozone commence tout doucement à se former. Les rayons néfastes pour la vie sont donc filtrés, et ces plantes, encore unicellulaires, commencent doucement à se rapprocher de la surface des océans, à produire de plus en plus d'oxygène, et même à se complexifier et devenir des algues pluricellulaires. Encore un peu plus tard, vers le début de l'ère primaire, c'est-à-dire il y a environ 500 millions d'années, la vie se décide enfin à sortir de l'eau. À partir de là, tout est allé de plus en plus vite. La vie, qui a mis presque 3 milliards d'années à sortir de l'eau, a enchaîné les inventions évolutives en quelques dizaines de millions d'années pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Tout d'abord, des végétaux terrestres, comme les mousses, ont inventé la reproduction sexuée. Elles se reproduisent par spores. Des petits organes végétaux produisant des gamètes mâles et femelles très semblables à des ovules et des spermatozoïdes, mais qui du coup sont dépendants de l'eau pour pouvoir se déplacer. C'est pour cela qu'on ne trouve les mousses et autres plantes se reproduisant par spores que dans les zones humides. Ensuite, d'autres plantes ont inventé la vascularisation, c'est-à-dire des canalisations à l'intérieur de ces tissus, permettant de faire circuler la sève et de devenir de plus en plus massive et de prendre de la hauteur. C'est l'ère des prêles et des fougères arborescentes, qui à cette époque pouvaient faire plusieurs dizaines de mètres de haut. Ces plantes se reproduisent encore par spores et non par graines. Mais on y vient. C'est il y a environ 350 millions d'années qu'apparaissent certains types de fougères qui isolent leurs jeunes embryons dans une écorce protectrice. Ces plantes sont aujourd'hui disparues, mais sont à l'origine d'un groupe de plantes aujourd'hui encore bien présentes, les gymnospermes, mot nous venant encore du grec signifiant « plante à graines nues ». Il s'agit en fait de ce que nous appelons les résineux, sapins, cèdres, pins, épicéas et autres. Ces plantes réalisent pour la première fois dans l'histoire de l'évolution une double prouesse. D'abord, la fécondation de l'organe femelle part du pollen, porté par le vent et non plus par l'eau, ce qui lui permet donc de s'éloigner de l'eau et de coloniser de nouvelles terres. Mais aussi, et surtout, une fois la fécondation accomplie, le jeune embryon, une fois formé, est déshydraté et en quelque sorte endormi et enfermé dans une écorce qui le protégera le temps qu'il faudra, avant qu'il se réhydrate pour pouvoir pousser de nouveau. Parfois plusieurs dizaines d'années plus tard. Et la graine est née. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un nouveau groupe de plantes, apparu discrètement vers le début de l'ère secondaire, il y a environ 200 millions d'années, va petit à petit prendre le pas sur les gymnospermes. C'est au début de l'ère tertiaire que tout change. Période de grands bouleversements. Les dinosaures disparaissent tandis que les mammifères prennent leur place, et de nombreuses espèces de gymnospermes s'éteignent, tandis que ce fameux nouveau groupe de plantes se multiplie dans une incroyable diversité. Ce groupe, c'est les angiospermes, qui, traduit du grec, signifie en gros « graines protégées dans un fruit ». Il s'agit donc des plantes à fleurs et à fruits. Le secret de la réussite de ce nouveau groupe de plantes est simple et d'une efficacité imparable. Elles utilisent les animaux pour effectuer certaines tâches nécessitant des déplacements qu'elles-mêmes ne peuvent pas effectuer. Ici encore, deux inventions majeures. D'une part, la fleur, organe coloré, odorant et surtout produisant du nectar. Comment y résister? C'est beau, ça sent bon, et en plus ça produit du sucre très apprécié des insectes et autres animaux que l'on appellera du coup les pollinisateurs. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. L'animal, berné, satisfaisant son appétit ou sa gourmandise, va à son insu transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Fécondation croisée beaucoup plus économe en pollen et donc plus efficace que si l'on compte seulement sur le vent, transporteur beaucoup plus hasardeux. D'autre part, ces plantes ont inventé le fruit, qui protège la graine, mais qui surtout va parfois être coloré et sucré pour les mêmes raisons que la fleur. La nature avait bien prévu notre délectation lorsqu'elle a créé la pomme, la pêche, la prune ou la cerise. Quelle délicieuse entourloupe que la chair succulente de ces fruits pour attirer les créatures qui assureront la dissémination de ces semences. Et la plante a de même rendu la graine indigeste. Ainsi, le fruit peut être mangé, mais la graine, elle, ne peut être que semée. Les plantes, donc, ne se déplacent pas. Cependant, elles rendent leur transport possible en offrant en échange des services, de la nourriture aux animaux. Elles déjouent ainsi l'immobilité végétale par une exploitation raffinée de son environnement animal. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui, de l'évolution des facultés reproductives des plantes. Mais qui sait ce que l'avenir et l'imagination des plantes nous réservent encore. La graine nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger, conserver de nombreuses espèces de plantes. Je vais finir cette histoire de graines en vous invitant, si vous le désirez, à venir faire vivre un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je serai présent le 7 octobre au matin sur le marché de Cordes-sur-Ciel et le 8 octobre sur les berges du Cérou, à l'occasion de l'événement « Et pourquoi pas nous, la fête des possibles », organisé dans le cadre du projet « Fête de la transition ». Et je voudrais qu'on crée pour l'occasion une grainothèque, un dispositif permettant à tous ceux qui le désirent de partager et d'échanger ces semences de plantes potagères, aromatiques ou autres. Je vous invite donc à me rejoindre ce week-end pour lancer ensemble ce beau projet. À bientôt! We'll be right back.